Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Sous nos assurances, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Si la féminisation des noms de métiers a constitué ces 30 dernières années une véritable bataille, il existe une profession qui depuis toujours s'énonce au féminin. Ce métier, c'est celui d'infirmière. Cet usage reflète une réalité statistique. 600 000 professionnels aujourd'hui en France, mais seulement 12% de personnel masculin. Les infirmières, piliers du soin, de la prévention, pivot de la prise en charge du patient et lien essentiel avec le médecin. Mais aujourd'hui, comme l'ensemble du personnel hospitalier, les infirmières subissent directement les effets de la logique comptable qui régit la santé publique. Effectifs limités pour des patients plus nombreux, protocoles plus complexes, plus de techniques, plus de gestes avec pour conséquence des limites pour le temps qu'il reste pour l'humain, pour le relationnel, avec à la clé des doutes et la fatigue. Quand on évoque cette profession, difficile de ne pas pointer ce paradoxe qui ne date pas d'hier, la reconnaissance partagée de la société envers ces infirmières, envers leur dévouement comme leurs compétences, mais cette popularité est loin de se traduire en termes de rémunération. Des infirmières plébiscitées, mais pas forcément entendues, alors que leurs revendications s'appuient sur une évidence, le bien-être des soignants conditionne la qualité des soins. Et la journée internationale de l'infirmière, eh bien, c'est le 12 mai. Avec nous, Sophie Chrétien, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes infirmière de pratique avancée en coordination de parcours complexes de soins. Vous êtes aussi membre du comité de pilotage du groupement d'intérêt commun du réseau de pratique avancée en soins infirmiers. Également à cette table, Amanda Carvajal, bonjour.
Bonjour.
Vous exercez depuis 2 ans et demi au sein de l'hôpital de jour de neurologie à la Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild. Et on vous retrouve également, Véronique Dufour, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes étudiante infirmière à l'Institut de formation en soins infirmiers de l'hôpital Jean Verdier de Bondy. Et tout à l'heure, nous retrouverons en ligne du Burkina Faso. Rasmata Yeye, infirmière dans le service hépato-gastro-entérologie à l'hôpital Yalgado Ouedraogo de Ouagadougou. En fin d'émission, on retrouvera notre bulletin de santé présenté avec Nathanaël Vitron. Aujourd'hui à la une, le retour d'Ebola en République démocratique du Congo. 29 cas au total, dont 18 mortels à Bikoro, à la frontière avec le Congo-Brazzaville. Et puis en France, l'ouverture d'une enquête préliminaire pour faire la lumière sur le décès de Naomi Moussenga. Cette jeune femme est conduite par les services d'urgence du SAMU. Notre numéro pour témoigner, pour poser vos questions, 33 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Journée mondiale des infirmières, émission pour vous donner la parole, mesdames, avec d'abord le regard de chacune d'entre vous sur votre pratique en fonction de vos parcours professionnels respectifs. Amanda Carvajal, infirmière diplômée d'État depuis 2010, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça.
Est-ce que aujourd'hui votre pratique vous conforte dans ce qui vous a motivé au départ quand vous étiez étudiante ou même avant pour devenir infirmière ? Est-ce que au jour le jour ça correspond à ce que vous attendiez?
Oui, de plus en plus, parce que moi, j'ai été diplômée en 2010, comme vous l'avez dit, et j'ai commencé par travailler 5 ans dans un service d'urgence, dans un hôpital public. 5 ans qui ont été extrêmement enrichissants, qui m'ont clairement appris ma profession et qui ont précisé certains choix au fur et à mesure. Et je me suis tournée depuis 2 ans et demi vers un poste complètement différent, dans un service atypique lui aussi, hein, qui n'est pas de l'hospitalisation classique, puisque c'est de l'hôpital de jour, avec une spécificité, c'est l'éducation thérapeutique du patient. Et cette fonction, je crois, me complaît dans le choix d'être infirmière au départ.
Sophie Chrétien, on peut dire la plus expérimentée autour de cette table. Comment décrire votre parcours ?
Ouf.
On va pas faire année par année, mais on va faire en gros.
Hein, en gros, fouf. Alors, comment décrire mon parcours
La jeune infirmière sortie de l'école d'étudiante,
oui.
Et aujourd'hui, entre les deux, beaucoup d'expériences différentes, beaucoup de services différents.
Alors non, quelques services. Moi, j'ai commencé en pédiatrie.
Je voulais commencer en pédiatrie pour me rassurer sur les gestes techniques, tout simplement. Je me suis dit, la réflexion très basique au départ, c'était si je sais faire un acte sur un tout petit, je serais beaucoup plus à l'aise sur un adulte. Et puis en fait, j'ai beaucoup apprécié de travailler auprès des enfants parce que c'est une prise en charge qu'on dit globale, où forcément quand on prend en charge un enfant, on prend en charge une famille. Il y a un travail d'équipe qui est vraiment important. Et dans mon parcours professionnel, j'ai débuté avec des enfants tout petits, prématurés, et ensuite j'étais en oncopédiatrique. Et à l'oncopédiatrique, j'étais confrontée à diverses choses, entre autres la mort de l'enfant. Et ça a été une vraie réflexion sur qu'est-ce qui se passe quand un enfant meurt, comment on l'accompagne. Et c'est ce que je vivais dans le service. Et puis des formations à côté rapidement, qui m'ont permis de me dire j'ai envie de développer d'autres choses dans ma profession d'infirmière. C'est comme ça que je suis venue en équipe mobile de soins palliatifs. Alors, pas chez l'enfant, parce que quand j'ai commencé en 2004 en équipe mobile de soins palliatifs, ça n'existait pas chez les enfants et c'est ce que je fais aujourd'hui.
Et puis, vous êtes, on va en parler tout à l'heure, vous êtes allée vers ce nouveau métier qu'on appelle infirmière de pratique avancée. On va avoir l'occasion d'y revenir. Je me retourne vers vous, Véronique Dufour, infirmière en devenir, étudiante. Pourquoi ce choix ?
Alors, je dirais que c'est un mélange de ma profession et de ma vie personnelle. Aujourd'hui, j'ai 38 ans, 39 ans à la fin du mois, donc j'ai commencé en tant qu'assistante veto, ensuite j'étais assistante juridique, juriste, et j'ai pris un congé sabbatique, je suis partie en Afrique, m'occuper d'enfants, là-bas, je suis revenue, tout ce qui était bureau ne me correspondait plus du tout au niveau de mes valeurs, ma vision de vie, et je suis devenue éducatrice de quartier sur la ville de Blanc-Mesnil. Et j'appréciais beaucoup tout ce qui était social, lien avec les gens. Et en parallèle de cette vie professionnelle, j'ai été mariée très jeune. Mon mari a eu un cancer et est décédé quand j'avais 29 ans. Donc j'ai côtoyé les hôpitaux et les soins palliatifs, Paul Brousse en l'occurrence, où j'ai découvert le métier d'infirmière, que je n'imaginais pas du tout comme ça. Moi, je voyais simplement des piqueuses ou des perfusions. Et en fait, j'ai découvert l'ampleur de ce métier, le lien social, l'humanité qui s'en dégageait. Et par mes voyages en Afrique, quand j'étais là-bas, j'étais avec des infirmières bénévoles, à la retraite souvent, au Burkina ou au Sénégal, et j'ai adoré. Du coup, j'ai passé mon concours pour me diriger vers le métier de l'humanitaire. J'ai eu mon concours, aujourd'hui je suis en école d'infirmière, mais je ne pense plus aller vers l'humanitaire parce que j'ai créé ma vie aussi ici. Et du coup, j'envisage plutôt tout ce qui est ou soins palliatifs ou pédiatrie, où il y a un relationnel important et la place des proches, qui pour moi est très importante dans la prise en charge des patients.
Et cette question au point de départ, hein, féminisation de la profession, Véronique Dufour, il y a beaucoup d'étudiants garçons avec vous ?
Alors, il y en a quelques-uns et qui justement revendiquent le fait de dire infirmier plutôt qu'infirmière. Donc dans mes rendus à l'écrit ou les choses comme ça, j'essaie de mettre infirmier par moment parce que pour certains ça les gêne d'entendre tout le temps infirmière.
On va dire que c'est peut-être un juste retour de bâton pour toutes les autres professions, Sophie Christian. Alors on a vu que la profession de médecin se féminise, elle, hein, sensiblement. Parmi les jeunes médecins âgés de moins de 30 ans, les femmes représentent 66% des effectifs aujourd'hui. C'est toutes celles qui viennent juste de passer tous les derniers examens, etc. C'est pas le cas de ce métier d'infirmière, d'infirmier. Comment est-ce que vous l'expliquez ?
Ah, je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'hommes dans ce métier et qu'ils sont de plus en plus attirés vers cette profession.
Donc, on est toujours à 12%, hein ?
À 12%. Bah, c'est étonnant parce que sur le terrain, ça donne vraiment une sensation différente. Moi, j'ai la chance de travailler dans une équipe qui est mixte et qu'on a constituée pour qu'elle soit mixte, justement. Alors, pas au niveau infirmière, parce que nous sommes trois infirmières, mais au niveau des autres professions, psychomotes, psychologues ou médecins, on a les deux genres représentés de façon équitable. Et je crois que c'est important pour le travail et l'équilibre dans le travail, effectivement. Donc ce déséquilibre, c'est une vraie réflexion. Pourquoi il n'y a pas tant d'hommes ? Je ne sais pas.
Alors, tout le monde souligne le rôle essentiel, souvent cet adjectif, on l'entend quand on parle des infirmières. Le rôle, est-ce qu'il a changé, Sophie Chrétien, pas le travail en tant que tel, mais on va parler du lien, du relationnel, tout ce qui entoure le métier, on va dire, en dehors des gestes techniques. Est-ce que ça a changé au cours des 10, des 20 dernières années ?
Alors, c'est pas ma vision des choses. Très honnêtement, moi je pense que ce qui fait le socle de ce métier, c'est cette approche relationnelle. Le geste technique, c'est ce qu'il y a peut-être de plus visible, mais ce n'est que la partie immergée de l'iceberg.
Mais c'est bien pour ça que je pose la question. Voilà. Moi, tout ce qui m'intéresse dans ma question, c'est ce qu'il y a autour. C'est l'humain, c'est pas le geste. Là, c'est l'école qui l'apprend, c'est la pratique sur le terrain. Mais là, l'envie d'être infirmière, qu'est-ce qui a changé dans le travail que vous faites au quotidien? Je mets ça en relation aussi avec tout ce qu'on entend sur le malaise. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, ce manque de temps pour le relationnel fait que cela peut être changé? Peut-être qu'il y a moins de place ou malgré tout, on pousse le reste pour que ça reste au centre du métier?
Alors, c'est un dirty work, on va dire. Hein, si on vient sur l'aspect sociologique des choses, l'aspect relationnel du travail, il a toujours existé. Il avait peut-être une place plus importante précédemment. Il se réduit aujourd'hui, ça c'est sûr, puisqu'on est sur du travail à la chaîne, hein, ce qu'on voit dans les hôpitaux. Mais c'est, du coup, ça réduit énormément le métier. Est-ce que ça a changé? Moi, c'est une vraie question. Je ne sais pas s'il a changé. C'est les conditions de travail qui ont changé. Le métier en lui-même, il évolue, il progresse. Et avec ces valeurs humaines qui ont toujours été importantes et qui restent fondatrices de ce métier. Mais par contre, c'est le système dans lequel nous sommes qui nous réduit à ce simple acte technique, à ce simple geste. Mais ce qui entraîne cette souffrance, effectivement, qu'on peut voir sur le terrain aujourd'hui.
Alors, bien sûr, hein, on l'a compris ici, les personnes qui sont autour de cette table ne sont pas que des techniciennes. On l'a compris, cette qualité du soin, eh bien, elle passe par la compréhension de la maladie, du traitement aussi, ce lien avec le patient. Et c'est tout le sens, Amanda Carvajal, de l'éducation thérapeutique. Aujourd'hui, vous êtes justement, votre travail est centré sur cette éducation thérapeutique. Faire comprendre aux auditeurs qui ne savent pas forcément ce que c'est, en quoi consiste cette éducation?
Alors, l'éducation thérapeutique, on en parle de plus en plus, effectivement. C'est une démarche pédagogique, une approche centrée sur le patient, qui s'adresse notamment à des patients atteints de maladies chroniques, une maladie avec laquelle ils vont devoir vivre toute leur vie, qui va engager des prises de traitement, qui va engager des démarches, et pour lesquelles ils ont besoin d'être accompagnés. Donc c'est évidemment différent d'une simple délivrance d'informations ou de conseils sur la maladie. C'est vraiment une approche dynamique. On essaye de mettre le patient au centre de sa maladie, qu'il soit vraiment l'acteur de soins, lui et ses proches, parce que c'est une démarche qui n'existait pas forcément il y a plusieurs années. Hein. Le médecin était assez tout puissant dans la démarche thérapeutique. Là, en engageant le patient aussi, on se garantit d'une meilleure observance, d'une meilleure qualité de vie. Voilà, c'est tout le sens de l'éducation thérapeutique.
Alors justement, ces maladies chroniques, hein, on le dit, de plus en plus fréquentes, ou en tout cas de plus en plus dépistées, suivre leur évolution, suivre le traitement, ça nous amène à parler justement de ce nouveau métier d'infirmière de pratique avancée, Sophie Chrétien. Et comme c'est nouveau, ça mérite une petite explication, une petite définition, et même pour tout dire, ça n'existe pas vraiment encore officiellement.
Non. Officiellement, non. Effectivement, il existe donc deux masters expérimentaux sur Aix-Marseille et Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est des expériences quand même qui commencent à dater, hein, 2009 pour l'un et 2011 pour l'autre. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand même, non officiellement, il existe 300 infirmiers de pratique avancée en France. Les décrets sont en cours. Il y a eu tout un gros travail qui a été fait et mené par le ministère et la DGOS depuis novembre dernier sur le décret de ce métier, et puis la formation, puisque du coup, officiellement, de façon officielle cette fois, les masters démarreront en septembre prochain. Donc ça va être très rapide, avec un objectif pour le ministère qu'il y ait 2000 infirmiers de pratique avancée dans les années à venir.
Donc, alors, ces infirmiers spécifiques ou ces infirmières spécifiques, qu'est-ce qu'ils font que leurs consoeurs ou confrères ne font pas? Quels sont les gestes autorisés, les pratiques autorisées? Parce qu'il y a bien sûr derrière une question de responsabilité.
Oui, tout à fait. Alors, il y a un aspect, c'est effectivement un infirmier expérimenté sur un domaine. Les domaines qui émergent là dans le décret, ça va être la polypathologie chronique stabilisée. Donc on voit, vous en parliez tout à l'heure, effectivement, la chronicisation des maladies.
On va dire par exemple des diabétiques.
Par exemple. tout ce qui est autour du rein aussi, et puis tout ce qui dépend de l'oncologie. Voilà, c'est pour l'instant, pour le démarrage, ce sont ces trois spécialités qui sont visées. Ces infirmiers, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire ? Dans leur formation, ils ont au moins trois ans d'expérience pour intégrer ce master. Donc, on sait que la profession infirmière, à partir du diplôme initial, se professionnalise par l'expérience. Donc c'est pour ça. Ils vont étudier un peu plus profondément les bases socles du métier et puis acquérir des compétences qui relèvent plus des compétences médicales aujourd'hui, comme certaines prescriptions dans le domaine circoncis dans lequel ils vont travailler, ainsi que les examens cliniques, pouvoir prescrire donc soit des traitements, soit des examens cliniques en lien avec le domaine de leurs compétences.
Alors ce champ de compétences, il a fait l'objet d'un compromis, notamment avec les médecins. On a vu, on peut le dire, une certaine résistance hein, de la part, peut-être d'ailleurs, d'une certaine génération de médecins. Peut-être que les plus jeunes, parce qu'on a vu les étudiants en médecine plutôt vous aller de votre côté. Sophie Chrétien, ça nous amène justement à parler du lien entre le médecin et l'infirmière. Est-ce que cette nouvelle spécialité pour les infirmières, justement, va un petit peu faire bouger les choses ?
C'est l'objectif de faire... bouger pas que les deux métiers, mais l'ensemble du système. Hein, c'est quelque chose de bien plus large, effectivement, avec des rapports différents. Effectivement, une demande. Alors, il y a deux problématiques. C'est sur la ville, le vieillissement de la population médicale aussi, certains déserts médicaux et donc des lieux où il manque des intervenants un peu plus spécifiques. Et puis l'évolution du système hospitalier aussi qui se réduit sur l'aspect plus plateau technique et donc du coup qui demande qu'il y ait des développements de compétences et les compétences socles du métier d'infirmière, ce qu'on évoquait tout à l'heure hein, sur la relation complètement cet aspect de la prescription. C'est une infirmière ne remplacera jamais un médecin, c'est une évidence. Les compétences acquises par l'infirmière du niveau médical seront de toute façon transformées par ces infirmières.
Alors au sujet du lien médecin-infirmière, vous vouliez réagir justement Véronique Dufour. Encore étudiante, c'est quoi votre sentiment sur ce lien ?
Ben, en fait, déjà, pour la pratique avancée, par exemple, aujourd'hui en France, ça fait peur, mais au Canada, ça existe depuis de nombreuses années et ça fonctionne très bien. Chacun est à sa place, le patient a une meilleure prise en charge, donc c'est dans l'intérêt du patient et des proches. Enfin, c'est vraiment un changement à faire en France, mais qui existe au Canada, en Angleterre, dans plein d'autres pays depuis longtemps.
Mais est-ce que ça ne consiste pas, finalement, d'une certaine manière, Sophie Chrétien, à officialiser ce qui se fait dans beaucoup d'endroits, faute de moyens ? Pas au niveau du droit et de la responsabilité, mais au niveau de l'acte et de cette très forte implication et présence déjà dans des infirmières dans un certain nombre de soins. On voit par exemple dans certains services hospitaliers, l'infirmière attendre simplement le médecin pour qu'il vienne apposer sa signature sur ce qui a été fait, un petit peu validé parce qu'il y a la dimension responsabilité.
Alors certainement dans le monde hospitalier, oui, il y a des pratiques qui sont probablement en lien et du coup qui vont pouvoir être mises à jour et de façon officielle avec de vrais métiers reconnus par rapport à ça. Sur la ville, c'est pas possible.
C'est différent.
C'est complètement
c'est très différent.
Et pour rebondir, effectivement, c'est la pratique avancée émerge, donc elle existe au Canada depuis longtemps, mais elle émerge dans toute l'Europe actuellement.
Ça répond à un véritable besoin.
C'est un vrai mouvement qui est au-delà de la France, qui émerge dans toute l'Europe actuellement, qui est déjà implanté dans d'autres pays depuis de nombreuses années.
Et pour évoquer justement ce lien médecin-infirmière, Amanda Carvajal, comment est-ce que vous le qualifiez, vous, dans votre pratique, après 7 ans et demi d'expérience ?
Alors moi, mes deux expériences professionnelles ont défini des rapports très différents avec les médecins. Parce que forcément, quand j'étais infirmière aux urgences, les rapports avec les médecins étaient beaucoup plus directs. On était peut-être beaucoup plus engagés dans la démarche thérapeutique auprès du patient. On travaillait vraiment non seulement avec les médecins, mais aussi avec les aides-soignants, plutôt en trinôme. Plus engagée dans ce genre de choses. Depuis que je suis en hôpital de jour, dans la spécialité de neurologie, les choses sont un petit peu différentes. On est dans quelque chose d'un peu plus pyramidal, où le médecin décide un peu de la prise en charge. Et finalement, en hôpital de jour pur, sans parler de l'éducation thérapeutique, on applique. On a évidemment le droit de donner son avis et de rapporter des éléments cliniques qui peuvent aider à la prise en charge du patient, mais c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça que l'éducation thérapeutique est intéressante, intéressante, c'est parce que c'est aussi une façon d'affirmer son expertise en tant qu'infirmière auprès du patient et de prendre plus part par ce biais-là à sa prise en charge.
Et vous, c'est quelque chose qui vous attire ? Vous voulez aller vers cette spécialité de pratique avancée ?
Oui, c'est quelque chose qui pourrait tout à fait m'intéresser. Je pense que, comme l'ont dit mes collègues, ça répond à un besoin qui existe, qui grandit. Alors, il y a des arguments pour et contre, mais effectivement, le manque de moyens paraît être aussi une des motivations pour faire évoluer ce genre de job. Mais je trouve ça très intéressant et c'est quelque chose qui pourrait me plaire.
Amanda Carvajal, Sophie Chrétien, Véronique Dufour, vous restez avec nous. On va partir tout de suite pour le Burkina Faso.
Priorité santé sur RFI.
Et on s'arrête à Ouagadougou, hein, où vous retrouve Rasmata Yeye. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Rasmata. Vous êtes infirmière à l'hôpital Yael Gado Ouedraogo, service hépato-gastro-entérologie. Racontez-nous, Rasmata Yeye, comment êtes-vous devenue infirmière ?
Je suis devenue infirmière par vocation. J'ai la vocation depuis mon enfance. Quand je voyais les infirmières dans les films avec leur bouche blanche en train de donner des soins aux malades, je les enviais. Et je me disais, pourquoi pas moi? Et voilà, je suis infirmière. Par vocation.
Est-ce que votre rêve, justement, votre imagination de petite fille a été récompensé dans la réalité? Est-ce que votre travail aujourd'hui correspond à ce que vous imaginiez?
Oui. Oui, mon travail correspond à ce que j'imaginais depuis mon enfance.
C'est
du tout prendre soin des patients, être là aux côtés du patient, donner des conseils, essayer de satisfaire ses besoins. Vraiment, ça me plaît.
À quoi ressemblent vos journées à cet hôpital Yael Gado Ouedraogo, Rasmata Yeye?
Oui, à l'hôpital Yael Gado Ouedraogo, particulièrement dans mon service, à l'hépato-gastro-entérologie. En tant qu'infirmière, j'ai toujours été guidée par quatre besoins de l'infirmier qui sont préserver la vie, soulager les souffrances, promouvoir la santé et offrir des soins de qualité aux patients. Et chez nous, nous faisons un service de continuité des soins. Nous travaillons par équipe, à une équipe qui monte le matin, de 7h30 à 12h, de 3 personnes. Une personne est en endoscopie, pour aider à réaliser les endoscopies. Et 2 autres personnes sont en train de donner des soins aux malades. Et à midi, il y a une autre équipe qui monte de 12h à 17h pour la continuité des soins. Et une autre équipe la garde de 17h au lendemain matin à 7h30 pour toujours la continuité des soins.
On entend...
Et avec l'appui de nos médecins, en tout cas, on essaie de faire le mieux qu'on peut.
Alors, on entend bien ce métier, il vous plaît, Rasmata Yeye. Malgré tout, est-ce qu'il y a un certain nombre de difficultés dans votre travail au jour le jour? On pense forcément en termes de moyens, par exemple?
Oui, ça ne manque pas.
Pour être plus précise, par exemple, quand vous travaillez, il vous manque quoi, par exemple, comme matériel?
Quand on travaille, il nous manque très souvent comme matériel. Par exemple, une lampe à la deux pour prendre les voies venues de la nuit, quand il n'y a pas plus de courant. On a souvent besoin de transfuseurs, des seringues automatiques électriques pour pousser certains produits qu'il faut calculer. On a aussi, il y en a beaucoup, madame. Je ne peux pas tout vous citer, mais l'essentiel, je peux vous le dire, même les tensiomètres, les saturomètres, oxygène, manomètre à oxygène pour oxygéner certains patients. Vraiment, ça rétablit le travail souvent.
On le comprend bien, il manque le matériel essentiel. Merci infiniment, Rasmata Yeye, pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes infirmière à l'hôpital Yael Gado Ouedraogo de Ouagadougou, service hépato-gastro-entérologie. On vous retrouve en studio, mesdames. Hein, Sophie Chrétien, infirmière de pratique avancée en coordination de parcours complexe de soins. Amanda Carvajal, infirmière diplômée d'État au sein de l'hôpital de jour de neurologie à la Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild. Et vous, Véronique Dufour, étudiante infirmière à l'Institut de formation en soins infirmiers de l'hôpital Jean Verdier de Bondy. Chez Rasmata Yeye, on vient d'échanger avec elle. On a entendu ce mot de vocation assumer, on parle souvent, hein, il y a une sorte de mythe autour de l'infirmière, comme ça, des clichés, des images, un peu un appel des tripes, on ne sait pas d'où, qui va donner l'image de la nurse bienveillante, en fait, tout ça avec tous les fantasmes qu'il y a derrière, on en parlera peut-être à une autre occasion. Armanda Carvajal, quand on dit vocation, vous répondez quoi ?
Moi, quand on dit vocation, je rebute un peu.
D'accord.
C'est un terme que j'aime pas forcément parce que... C'est quand même un métier. C'est un métier pour lequel les infirmières se sont battues et se battent encore pour que la professionnalisation soit reconnue, pour qu'on avance dans la formation, qu'il y ait de plus en plus de recherches infirmières, etc. Et le terme de vocation me déplaît parce que ça renvoie, je trouve, aux origines de la profession qui n'en était pas une, voilà, qui était quelque chose de bénévole. Et je trouve que le terme de vocation nous renvoie à ça et ça va à l'encontre de la lutte pour que ce métier soit reconnu en tant que telle.
Sophie Chrétien, votre sentiment là-dessus ?
La vocation, c'est le mythe infirmier. Hein, c'est pour ça qu'effectivement, comme ma collègue, je rebute un peu quand j'entends ce terme. Je reconnais ma passion pour mon travail, c'est une évidence. Mais quand on entend le terme vocation ici en France, il y a une connotation, effectivement. Hein, et dans la création de la profession, il y a eu quand même bataille autour de la laïcisation de la profession. Cependant, on oublie qu'il y a eu des laïcs bien avant les religieux dans les hôpitaux.
Mais d'ailleurs, ce terme de vocation, on l'emploie pour tout un tas de professions, en fait, du service public,
oui.
Les instituteurs,
voilà.
Également les médecins, et puis, pas dans le service public, les avocats aussi. À chaque fois, on parle de vocation comme s'il y avait quelque chose de sublime qui commandait ce choix de vie, ce choix professionnel.
Alors, c'est intéressant que vous parliez des avocats, des médecins, qui sont pas du tout le même niveau social que les infirmières. Et dans le terme vocation pour une infirmière, il y a effectivement quelque chose qui est beaucoup plus péjoratif et qui parle de le fait de rester quelque chose de très féminin et du coup, qui permet de sous-payer, qui permet de ne pas reconnaître la profession. Enfin, voilà. Alors que pour les avocats, ça ne se pose pas, cette question.
Véronique Dufour, vous arrivez dans ce métier au moment où le secteur hospitalier français, hein, tout le monde le sait, connaît un vrai malaise, personne ne peut l'ignorer. Comment, vous, en tant qu'étudiante, vous voyez cette crise ? Comment vous ressentez ça quand vous allez sur le terrain, bien sûr, dans le cadre de vos études ?
Alors, je le ressens surtout en stage, où selon les services où on se trouve, parfois les soignants sont débordés. Par la quantité de patients qu'ils ont à gérer. Ils ont envie de nous former, je pense. C'est de bons soignants, mais ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas le temps de faire déjà correctement leur travail auprès des patients, parce qu'ils en ont trop. Et par contre, quand là, je suis en soins palliatifs, où c'est normé, un infirmier a 5 patients à prendre en charge, il travaille en binôme avec l'aide-soignante, et là, c'est des soignants qui sont, je pense, tout aussi bons que ceux que j'ai rencontrés ailleurs, mais qui ont le temps d'exercer leur profession comme ils l'entendent, avec dignité de l'humain, avec respect, tant pour les toilettes que pour les soins, que pour les échanges, pour le temps relationnel, et également de former leurs étudiants. Parce que nous, en tant qu'étudiants infirmiers, ce sont les infirmiers sur le terrain qui nous forment. Donc du coup, ils ont le temps aussi de faire ça avec beaucoup d'envie et de passion. J'ai un tuteur qui prend beaucoup de temps avec moi, qui m'explique les choses, qui... Voilà, donc les conditions de travail des soignants sont également ressenties sur les étudiants.
Alors, le malaise hein, hospitalier, il a des répercussions directes sur la santé des soignants. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez dans la pratique de votre métier, Amanda Carvajal, autour de vous, des consoeurs, des confrères bah, qui vont mal ?
Ça m'est arrivé d'en croiser. Après, c'était peut-être plus fréquent dans mon service d'urgence parce que la dynamique était différente. Il y avait beaucoup de pression, beaucoup de patients. On sait que les conditions d'accueil dans les services d'urgence, on en parle beaucoup en ce moment, bah, ont tendance à se dégrader. Hein, et comme disait Véronique, pas du tout. C'est pas du tout la qualité des soignants qui est en cause.
Si on veut faire bien, on peut pas parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens. Il y a trop de monde, tout simplement.
Tout à fait. On peut pas toujours accueillir les gens comme il le faut. On peut pas toujours fournir ce temps d'écoute comme il le faut. Et je sais que voilà, si j'ai changé mon fusil d'épaule en allant travailler dans une structure plus petite et assez spécifique, c'est aussi parce que j'avais besoin de conditions de travail meilleures.
Et Sophie Chrétien, justement, cette réflexion sur la souffrance des soignants, d'ailleurs on retrouve hein, cette souffrance aussi par exemple chez les étudiants en médecine, hein, qui n'en peuvent plus, qui sont au bout du rouleau. On voit ça aussi dans les chiffres, 25 000 infirmières formées aujourd'hui, près d'un quart vont changer de métier au bout d'un an, peut-être quitter le système hospitalier. C'est un gros gâchis au niveau aussi de l'investissement qui a été fait sur ces études, sur tout ce savoir-faire qui part dans la nature. On peut faire quoi pour améliorer les choses ? Ah, mais...
Une baguette magique Bon, je ne sais pas ce qu'on peut faire, mais peut-être...
Déjà l'écoute.
C'est ce que j'allais dire, la première chose c'est d'écouter, mais il n'y a pas l'envie. Enfin, je crois pas moi qu'il y ait l'envie d'écouter les soignants, d'écouter les gens sur le terrain, parce que aujourd'hui il n'y a pas d'espace de parole possible pour ça. Hein. C'est effectivement très contraint dans les services. Les gens travaillent à la chaîne.
Même si on sent peut-être de la part de certains médecins qui partagent une forme de ras-le-bol avec tout le reste du personnel, une forme de cohésion qui se noue autour du on n'en peut plus, le trop-plein, c'est pour toutes les catégories sociales, en fait, toutes les catégories de métiers.
Tout à fait. C'est pas pour ça qu'il y a cohérence entre tous les métiers. Chacun travaille pour sa chapelle. Donc, c'est une des problématiques aussi de la structure. Et puis, effectivement, les représentations. C'est-à-dire que si les médecins commencent à bouger, ben, peut-être que tout le système bougera. C'est pas eux tout à fait les plus impactés aujourd'hui dans la réalité du terrain. Ils sont très soumis à pression et on voit les internes qui sont dans des conditions de travail très, très difficiles. Il y a des aspects qui sont, je pense, très, très différents. Mais ce qui pêche le plus, c'est le temps de parole. La parole a disparu dans les hôpitaux. Avec la parole disparaît la réflexion. Il y a un déficit de pensée qui est majeur aujourd'hui, à tous les niveaux, et qui entraîne, à mon sens, ce que j'observe pour moi, des abandons de soins.
Alors justement, la notion d'équipe, de service, on disait tout à l'heure, un certain manque de cohésion, c'est essentiel ce lien entre les soignants, la relation avec le patient, pour ça il faut être bien sûr disponible. Certains pays, certaines régions ont choisi qu'il y ait des quotas d'infirmières. Qu'est-ce que vous en pensez, Sophie Chrétien?
Alors je ne sais pas, des quotas d'infirmières par service?
Non, par patient.
Ah, par patient. Alors c'est vrai qu'en France c'est peu normé, alors en soins pâles, non. C'est pas normé, c'est pas inscrit dans les textes. Ça peut être un choix de service et d'une équipe, d'une unité de soins palliatifs à l'autre, ça peut être un tout petit peu différent. C'est normé que en réanimation en France, de mémoire.
Je crois alors, pas qu'il y ait j'ai vu services. Que ça existait en Australie, ça existe en Californie. Alors ceux qui sont contre disent ça coûte cher, mais ce qu'on a regardé en fait au niveau, si on dit toujours sur une logique comptable, c'est que à l'inverse, les personnes étant mieux prises en charge, elles reviennent moins et au bout du compte, ça coûte moins cher. Est-ce que cette réflexion elle existe aujourd'hui?
Ben, c'est une vraie question. J'ai pas l'impression.
Parce qu'elle s'est posée pour les personnes âgées, pour les EHPAD, de dire tant de personnel pour tant de personnes âgées. Oui. Mais aujourd'hui, au milieu hospitalier, c'est pas une réflexion qu'on entend.
La logique, il y a une réflexion sur le nombre d'infirmières par service.
Par service, mais pas par patient.
Par service, alors si, par patient. Si, on va dire par patient, mais dans une logique comptable. Pas dans cette logique de prendre soin et d'espérer que le patient ne soit pas réhospitalisé la semaine suivante. On s'en fiche. C'est triste, mais le patient, il est pris en charge d'une certaine manière. Il va sortir dans quelles conditions, c'est pas bien explicite quand même. Et il revient par le biais des urgences, donc ça engorge effectivement les urgences qui vont impacter les services. On est dans un truc qui tourne en boucle, qui se mord la queue parce qu'il y a un vrai déficit de pensée.
Alors, on va écouter un autre témoignage. Pour cela, on va partir au Bénin, à Cotonou. C'est un auditeur de Priorité Santé qui est en ligne avec nous. Cet auditeur, il est infirmier. On lui donne la parole. Bonjour, Flavien.
Bonjour, madame Paré.
On vous écoute pour que vous nous racontiez un petit peu comment ça se passe chez vous à Cotonou. Vous êtes donc infirmier au CHU de Cotonou depuis 2 ans, c'est bien ça?
Oui, oui.
Alors, racontez-nous pourquoi vous avez choisi de devenir infirmier.
Oui, tout d'abord, c'est pour la promotion de mon genre, du genre féminin, que j'ai choisi de faire ce métier. Parce que j'ai remarqué que dans les hôpitaux, souvent, on parle souvent des infirmières. Je n'entends pas parler souvent des infirmiers. Donc, j'ai choisi de faire la promotion de ce genre. C'est pour cela que j'ai choisi ce métier.
Et qu'en a pensé votre famille quand vous avez décidé de vous destiner à ce métier, à cette profession d'infirmier?
Oui, pour eux, ils voulaient bien que je fasse un métier de la santé. Donc pour moi, comme c'est ce qui m'a plu, eux aussi sont contents.
Est-ce qu'il y a quand même des difficultés? Vous dites vous êtes satisfait de pouvoir faire ce métier, mais est-ce qu'il y a au jour le jour des choses particulièrement difficiles dans votre pratique?
bien sûr, il y a beaucoup de choses qui vraiment qui sont difficiles, qu'on n'arrive pas, qui me sont difficiles dans la pratique, dans l'exercice de ma profession.
Par exemple.
Par exemple, il y a le travail de nuit, par exemple les gardes. Donc, à la garde, il faut laisser la famille, il faut venir au secours des patients. Et aussi, il faut souligner la caprice de certains patients. Voilà.
Un peu. Merci beaucoup Flavien pour votre appel de Cotonou au Bénin. Flavien qui parle des caprices de certains patients, c'est pas des choses qu'on dit forcément, mais c'est pourtant une réalité hein, dans certains services. Des fois, tous les patients ne sont pas forcément faciles. Est-ce qu'aujourd'hui, Amanda Carvajal, l'hôpital attend davantage de technicité de la part de ses infirmières? On parlait tout à l'heure de la relation avec les médecins. Est-ce qu'on vous demande aujourd'hui justement d'être de façon caricaturale des piqueuses un peu trop et pas assez justement des socles de ce lien social et de ce lien de soins?
Je crois qu'en ce moment quand même il y a une prise de conscience sur le fait que l'infirmière n'est pas seulement une piqueuse ou une actrice de soins et que finalement tout ce qui est technique, un robot bien programmé pourrait s'en sortir très bien. Donc je pense qu'il y a paradoxalement la profession n'est pas forcément très reconnue et on attend de l'infirmière qu'elle multiplie les soins techniques pour faire avancer la machine, mais paradoxalement on est en train de réfléchir à cet autre aspect du job d'infirmière qui est un aspect de réflexion, d'expertise clinique auprès de nos patients, et c'est quelque chose qui se met en place. L'éducation thérapeutique, ça n'existait pas il y a plusieurs années. Maintenant, c'est quand même assez en vogue. Tous les services n'en disposent pas, et c'est bien dommage, et ça viendra certainement. Mais en tout cas, on en parle et on met l'accent là-dessus.
L'avenir justement du métier d'infirmière, Sophie Chrétien, on parle beaucoup de responsabilité, c'est très important. Est-ce que ça va passer justement, cet avenir de votre profession, par davantage d'autonomie, davantage de responsabilité dans le parcours de soins? Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez?
Oui, clairement. Je crois que la première revendication des infirmières, de l'ensemble des infirmières, c'est d'être plus autonomes dans leur travail et que cette autonomie soit reconnue.
Dans quel moment, par exemple, d'une journée, à un moment donné, on se sent bloqué, on dit là, j'aurais voulu pouvoir faire ça, un exemple concret, et finalement, je n'ai pas le droit de le faire?
Alors, moi je travaille en équipe mobile soins palliatifs, donc du coup c'est pas tant moi qui peux répondre peut-être à cette question. Parce que,
est-ce que vous auriez une illustration par rapport à ça, quand on dit on veut plus d'autonomie, à quel moment on se sent restreinte dans sa profession et on dit là si les choses changeaient j'aurais peut-être pu mieux travailler?
Alors moi, Amanda Carvajal, l'exemple va être plutôt sous la lumière de l'éducation thérapeutique, puisque c'est une pratique qui se développe. J'ai la chance de travailler dans un établissement qui a compris l'importance de cette pratique et qui tend à la développer. Mais pour le moment, on en est encore quand même relativement au balbutiement. Ça veut dire pas beaucoup de temps dédié à cette activité, alors que des patients, les demandes de patients se multiplient. Pas forcément de local fixe. Enfin, les conditions de travail pour mettre en œuvre quelque chose d'efficient sont pas encore au top.
C'est plus un manque de moyens.
Ce serait plus un manque de temps et de moyens.
Alors on aborde la conclusion de ce débat, peut-être avec ce double constat. Il y a des causes, des raisons objectives d'insatisfaction face aux conditions de travail, ce qui n'empêche pas d'aimer, d'adorer pleinement ce métier. Est-ce que l'une d'entre vous veut réagir par rapport sur cette espèce de balance entre amour du métier et ras-le-bol du métier, Amanda Carvajal?
Oui, effectivement, c'est une relation parfois d'amour-haine, ce métier. Hein. On sait pourquoi on l'a choisi et parfois il y a des choses qui font remettre en question ce choix. Malgré tout, je pense que si on aime quelque chose, il faut se battre pour ça. Et cette profession, elle évoluera en grande partie parce que les infirmières se remontent les manches pour se défendre et s'organiser et montrer que voilà, elles ont leur expertise, qu'il faut qu'elles prennent leur place dans la recherche, qu'il faut qu'elles prennent leur place dans les services, qu'il faut qu'elles prennent leur place, qu'elles reprennent leur place auprès du patient.
Véronique Dufour, encore étudiante, j'imagine que vous ne ferez pas partie de ce quart d'étudiants qui lâchent prise, qui abandonnent. Hein, vous n'êtes pas partie pour. Justement, qu'est-ce qui vous fait adorer ce métier. Enfin, j'ai l'impression que vous êtes plutôt enthousiaste.
Ah oui, je suis totalement enthousiaste. C'est les infirmières ou les infirmiers que je croise qui exercent leur métier avec passion, malgré le nombre d'années de pratique derrière eux. C'est le contact avec l'humain permanent. Le changement, c'est l'importance de l'infirmier.
Et le retour aussi avec le patient.
Exactement. C'est les échanges. C'est un métier, je trouve, où on peut apprendre tout le temps, changer, ou que ce soit de service ou de lieu. Par exemple, là, je pars faire un stage au Sénégal avec 5 autres étudiants. Donc, on va voir une autre façon de travailler, d'autres conditions de matériel où il manque effectivement, mais une façon de faire différente. Donc, je pense que c'est un métier très enrichissant, personnellement, et un partage quotidien. C'est un métier qui me donne très envie.
Sophie Chrétien, jamais envie de baisser les bras, de continuer justement, d'aller vers autre chose ?
Ah, si, c'est une question, comme disait Amanda, hein, c'est un rapport amour-haine avec ce métier, effectivement, où il y a des fois où on y croit et il y a des moments d'abattement parce qu'effectivement, on vit des choses qui sont difficiles. Ce qui est pleinement épanouissant, effectivement, c'est la relation, c'est le travail de relation, le travail humain, l'écoute, la richesse du retour qu'on peut avoir. Là où c'est difficile, c'est dans les rapports humains, mais dans les rapports de travail, j'allais dire. Avec le patient, ça peut être parfois plus compliqué, mais c'est pas là où c'est le plus difficile.
Et d'ailleurs, le patient, il ne ressent pas forcément ce malaise, hein, sauf quand il y a des problèmes d'emploi du temps, l'une n'est pas là, l'autre prend... Voilà. Mais sinon, il est tellement reconnaissant de ce que vous lui apportez que des fois, ils disent, il y a un malaise, mais on le voit pas, parce qu'en fait, les infirmières font tout pour que ça ne se voit pas. Ça fait partie aussi du métier.
Probablement.
C'est quelque chose que vous... Enfin, vous en parlez entre vous, entre infirmières, justement, de dire, là, j'étais au bout, mais j'y suis allée quand même pour donner, continuer de donner, justement, parce qu'il y a cette forme de... Il y a un mot que j'ai pas dit depuis le début de l'émission, pourtant, on pense bien à ça, de générosité.
Alors oui, je crois qu'effectivement, la générosité, c'est une des valeurs phares de la profession, mais c'est toutes ces valeurs humaines qui sont portées, c'est prendre soin de l'autre, prendre soin d'autrui, de son prochain, oui, de la personne qui compte, et de l'humain. Et je crois que c'est une vraie croyance en l'humanité quand on fait ce métier, et dans le potentiel humain, dans la qualité du regard, de l'écoute qu'on porte sur l'autre. Et si on prend soin de l'humain, on prend soin, quelque part, de la planète aussi, j'allais dire, hein, mais c'est, je pense, ça qui nous porte. Donc le geste technique est un support pour le reste, mais juste un petit support pour l'ensemble.
Merci beaucoup à vous trois d'être venus dans les studios de RFI pour nous parler de votre métier, votre parcours d'infirmière. Sophie Chrétien, Amanda Carvajal, Véronique Dufour, merci beaucoup à vous trois d'être venus, merci, et d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé.
Bulletin de santé.
Et on se retrouve pour ce tour d'horizon des faits marquants de la semaine, un bulletin de santé que j'ai le plaisir de présenter en votre compagnie. Nathanaël Vitran, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à toutes et à tous.
Et pour commencer, la nouvelle épidémie de maladie à virus Ebola qui touche le nord-ouest de la République démocratique du Congo.
Ah oui, avec mercredi, 4 nouveaux cas d'Ebola à Bikoro, 4 cas qui s'ajoutent aux 25 autres déjà recensés. Parmi eux, 18 cas mortels, toujours dans cette même région enclavée et boisée, située à la frontière avec le Congo-Brazzaville.
Alors, autre voisin de la RDC, c'est le Nigeria qui fait part de sa préoccupation.
Le gouvernement nigérian annonce des contrôles accrus aux frontières ainsi que la mise en place d'un centre d'urgence pour se préparer en cas de propagation de l'épidémie.
Et de son côté, l'Organisation mondiale de la santé a débloqué 1 million de dollars pour stopper la propagation du virus.
En France, c'est l'Institut de recherche pour le développement qui coordonne le laboratoire mixte international prévention et prise en charge des maladies infectieuses émergentes. Eric Delaporte est spécialiste des maladies infectieuses à l'IRD, professeur également à l'Université de Montpellier. Il explique qu'aujourd'hui, la maladie se manifeste de différentes façons et qu'il faut surtout prendre des mesures de prévention pour limiter le risque de contamination.
On a découvert que la maladie, c'était plus complexe qu'on ne le pensait. On voit toujours Ebola égale la mort. Eh bien non, il y a des gens qui peuvent être avec beaucoup de symptômes, beaucoup de manifestations, mais qui vont survivre. Il y en a malheureusement beaucoup qui vont mourir. Mais à côté de ça, vous avez des gens qui ont très très peu de signes. Une simple diarrhée, un syndrome grippal. Et on a eu des gens qui ont séroconverti, c'est-à-dire qu'ils ont fait des anticorps, donc ils ont été au contact avec le virus, avec très peu de symptômes. Mais ces gens-là peuvent peut-être intervenir dans la chaîne de transmission. D'où l'importance des mesures de précaution, ne pas toucher un malade, ne pas toucher un mort, les déjections, le vomi, tout ce qui est fluide. La contagiosité n'est pas phénoménale si, avec des mesures simples, simplement l'évitement, les gants, on les applique, à ce moment-là, beaucoup du travail sera fait.
Éric Delaporte de l'IRD, joint par Clémentine Pavlotsky et Nathanaël, on reste en RDC avec l'UNICEF qui tire la sonnette d'alarme dans un rapport qui vient tout juste d'être publié. Au moins 770 000 enfants de la région du Kassai souffrent de malnutrition aiguë.
Et 400 000 enfants sont gravement dénutris. Il y a urgence, un risque réel de surmortalité infantile dans cette région où les conflits et les déplacements de population continuent d'avoir des conséquences désastreuses pour les plus jeunes. Absence d'accès à l'eau potable, aux soins, à l'éducation. Sur place, plus de 200 centres de santé ont été pillés ou détruits et les campagnes de vaccination interrompues avec une recrudescence des épidémies de choléra et de rougeole. L'UNICEF chiffre ses besoins à 88 millions de dollars.
Et toujours sur le continent africain, campagne de vaccination sans précédent contre le choléra. Cette campagne a commencé avec un vaccin oral qui s'administre, Nathanaël, en deux doses.
Oui, Caroline, une campagne qui concerne 5 pays, Zambie, Ouganda, Malawi, Soudan du Sud et Nigeria, avec plus de 2 millions de personnes ciblées d'après l'ONU et l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination. Aujourd'hui, 12 régions ou pays d'Afrique subsaharienne connaissent une transmission active du choléra. Et pour limiter la transmission de cette grave infection intestinale, il faut aussi améliorer la qualité de l'eau et de l'assainissement.
En France, le parquet de Strasbourg a annoncé mercredi l'ouverture d'une enquête préliminaire pour essayer de faire la lumière sur le décès de Naomi Moussenga.
Ouais, Naomi Moussenga, cette jeune femme de 22 ans, décédée en décembre dernier après avoir fait appel au service d'urgence du SAMU avec comme réponse de la part de l'opératrice des moqueries. Une opératrice qui n'a pas pris au sérieux ni donné suite aux appels à l'aide désespérés de la patiente. Après des heures d'attente, la jeune femme a été transférée à l'hôpital où elle a succombé peu après. Le rapport de l'autopsie qui date du 3 janvier évoque une défaillance multiviscérale sur choc hémorragique.
Cette affaire a fait grand bruit, un grand retentissement en France et l'enregistrement de l'appel téléphonique a même été rendu public.
L'opératrice du SAMU a été suspendue. Les parents de la jeune femme souhaitent que justice soit faite. La ministre de la Santé assure la famille de son entier soutien et réclame une enquête de l'inspection des affaires sociales. Et par ailleurs, Agnès Buzyn recevra une délégation de médecins urgentistes la semaine prochaine.
Au Portugal, la grève plutôt bien suivie dans les hôpitaux.
3 jours de grève entre mardi et hier pour réclamer des hausses de salaire et dénoncer le manque d'effectifs. Grève très largement suivie à plus de 80%, ce qui s'est traduit par des consultations reportées et seuls les blocs opératoires d'urgence étaient en activité.
Les députés espagnols vont examiner un projet de loi autorisant l'euthanasie.
Oui, c'est une première, Caroline, dans le Royaume. Le projet vise à exempter de responsabilité pénale celui qui, à la demande expresse et sans équivoque d'une personne en fin de vie, provoque sa mort en paix et sans douleur. Cette assistance est interdite aujourd'hui par le code pénal espagnol.
Choisir sa mort, c'est ce que vient de faire un Australien âgé de 104 ans. Mais pour cela, il a dû se rendre jusqu'en Suisse.
À son nom, David Goodall, il a bénéficié d'un suicide assisté par injection de barbiturique. Ce scientifique australien, plus que centenaire, ne souffrait d'aucune maladie en phase terminale, mais jugeait que sa qualité de vie s'était détériorée et qu'il était temps de partir. Mais les autorités australiennes lui ayant refusé de bénéficier d'un suicide assisté, il a quitté la vie, loin de chez lui, en Suisse, entouré de ses petits-enfants et d'un ami.
Merci beaucoup, Nathanaël Vitran, et à bientôt pour un nouveau bulletin de santé. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. C'est tout, Samaké, Ophélie Lassène, Didier Bleu. Lundi, nous parlerons des hépatites B et C, dépistage, vaccination, prise en charge. Toutes vos questions au 33 84 22 75 75. Vous pouvez bien sûr réécouter l'émission en podcast sur notre application Pure Radio, également sur le site internet rfi.fr, la rubrique émission. On se retrouve lundi. Très bon week-end à toutes et à tous.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.